Avec ou sans Beaujolais nouveau, c'est plus mes pinceaux. Ouais, ça faisait une rime, quoi.
Ouais, c'est surtout sans Beaujolais nouveau.
C'est pas trop mon truc, j'avoue. C'est pas trop mon truc. 515e émission de Plume et Pinceaux, donc en compagnie de Roger et en digne représentant de la fameuse boutique dont on taira le nom. Aujourd'hui, nous avons monsieur Fifrelin.
Bonjour. Ouais, hey.
Bienvenue, monsieur Fifrelin. Alors aujourd'hui, plein de chroniques, si j'ai bien compris. Et puis des discussions diverses et variées, parce qu'il se passe toujours quelque chose à Angoulême. Donc il faut qu'on en parle.
Jamais. Mais il ne va pas se passer grand-chose cette année pourtant.
Oui, apparemment. Je crois que vous avez raison. Et puis de la musique. Alors tiens, un petit morceau pour vous, monsieur Fifrelin. Ouais, extrait d'une bande-son d'un film dont nous avons parlé récemment, avec deux employés autour d'un vidéoscope,
ouais,
etc. Voilà, un morceau qui m'a toujours fait rire. Je dis pas que c'est le plus grand morceau du siècle, mais j'aime bien. Et puis je vais parler de Star Wars tout à l'heure, donc c'est pile poil rapport.
Ah, je vois ce que c'est.
Chissa, picha, ronke, chubaka.
Le film s'appelait Clerks, Kevin Smith, qui a fait des scénarios, si je me souviens bien.
Qui a fait au moins un Daredevil, ouais.
Oui, et je crois qu'il a fait un petit Arche aussi avec Black Cat, la chatte noire, dans un Spider-Man, si
ouais,
je me trompe
c'est
pas.
C'est possible aussi, ouais.
Ouais, ouais, ouais. En tout cas, un film qui a compté dans votre carrière de fonctionnaire de l'éducation nationale.
Avorté, malheureusement, c'est peut-être pas complètement étranger à ce film, d'ailleurs.
Mais voilà, il y a prescription, voilà, on va pas raconter les détails. Bon, alors, je suppose que tout le monde est au courant qu'il se passe des trucs à Angoulême. J'en ai parlé la semaine dernière avec Matadora, mais je crois que chaque semaine, son lot de surprises.
Ah oui, parce qu'il s'est passé encore plein de choses, et puis ça touche tout le monde, hein, quand un festival, même à l'autre bout de la Terre, c'est le cas de la ville d'Angoulême, hein, qui est un peu à ce que... ville d'Angoulême, où il se passe pas grand-chose, ou même à côté d'Angoulême, Saint-Brieuc paraît une ville riante et accueillante, faut le dire. Parce qu'Angoulême, à part le tout petit centre-ville, c'est une banlieue sinistre, à
ouais,
souhait,
c'est moche, ouais.
Une campagne moche. Mais il y avait...
Vous ne comptiez pas y aller prochainement, les gars, non, rassurez-moi.
Non, non. Et il y avait quand même un festival BD. Festival BD où vous y alliez aussi, où vous rendiez, mais de manière professionnelle, puisque en tant que, comment dirais-je, tenancier de la librairie dont nous tirons le nom, eh bien, en compagnie de votre associé, vous vous rendiez régulièrement à...
Alors, pas régulièrement, en fait. On y allait juste l'année dernière, mais a priori, c'était ça devait inaugurer une série, en effet, parce qu'on y va pour représenter les arènes, un éditeur avec lequel on travaille déjà sur Cadébule, et on s'y était rendu l'année dernière, en effet, ça s'était super bien passé. Et on devait y retourner cette année, mais au printemps et à l'été, les arènes ont dit non, on retourne pas à ce festival en l'état. Donc, donc en fait, ils ont pas amorcé quelque chose, mais par contre, ils ont pris quand même les choses assez tôt.
Alors, avant même
donc, de ce qui se passe.
Avant même donc cette histoire d'appel d'offres un peu pourrite, ouais. Les arènes avaient déjà décidé de pas s'y rendre, c'est ça?
Ouais, parce que il y a eu. Eux, je crois que ce qui les a vraiment décidés, au-delà de ce que fait Franck Bondou, la gestion de Franck Bondou et son management toxique, qui sont les premières choses qui ont commencé à faire crier un peu, enfin à faire parler dans le Landerneau. Il y a l'histoire du viol d'une employée du festival en 2024 qui a été écartée du revers de la main par Franck Bondou pour de très mauvaises raisons. Qui ont suscité une levée de boucliers. Et d'ailleurs, elle a porté plainte formellement le 31 janvier 2025. Donc, à un moment, ça va quand même se résoudre au pénal, comme on a le droit d'espérer.
Comme ça devrait le faire.
Voilà.
Elle n'est pas passée au prud'homme déjà.
Je sais pas si elle est passée au prud'homme, mais si elle passe au prud'homme, elle a de bonnes chances de gagner, ouais. Parce que elle a été licenciée. Pour faute grave et on a invoqué l'état d'ébriété pour justifier le licenciement. Alors bon, ça c'est quasiment une justification du viol. En fait, ça va pas du tout. Il y a quand même.
Elle était bourrée. Elle a eu ce qu'elle mérite. C'est un peu ce qu'a dit 9e art plus quoi.
En substance, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais.
Je résume.
C'est pas les paroles de Roger. Hein, on est bien d'accord.
non, c'est plus.
Non, mais c'est ça.
La façon dont 9e art plus a un peu géré l'affaire quoi.
Et puis alors quand on sait comment se passent les soirées à Angoulême, invoquer un état d'ébriété. C'est quand même de l'hypocrisie pure et dure, quoi.
Ouais. D'autant que nous, il nous arrive bien souvent d'avoir un petit peu abusé. Nous n'avons jamais été accusés de viol. Je tiens à le préciser quand
ni
même.
Ni violé vous-même.
D'ailleurs, Monsieur Plume et moi, nous dormons ensemble. Ainsi, on évite tous les problèmes posés. Alors, il n'y a pas que...
Tous les problèmes posés.
Il n'y a pas que Monsieur Franck Bondou qui pose problème. Il y a aussi, à mon sens, aussi Delphine Groux.
Oui.
Qui est la présidente de l'association FIBD.
Parce qu'en fait, le festival, au départ, c'est géré par une association. Au départ, c'est une association qui s'appelle le FIBD, donc Festival International de la Bande Dessinée, mais qui marche vraiment main dans la main avec Franck Bondou, qui est lui le président de 9e Art Plus. Et c'est là où il y a des histoires de népotisme un peu aussi, c'est-à-dire que les appels d'offres quand ils sont lancés pour la reconduction des contrats sont purement et simplement pas du tout respecté. C'est-à-dire que Franck Bondou remporte systématiquement la mise sans qu'il y ait de réelle mise en concurrence. Et la dernière fois que ça a été fait, parce que ça avait déjà commencé à coincer, il devait y avoir quatre candidats, dont 9e Art Plus. Il y a eu deux candidatures qui ont été exclues d'office. Comme vous le disiez, Delphine
Groux
disait que si elle avait le temps, elle prendrait le temps d'expliquer aux représentants des...
Ça fait très truc à la soviétique ou régime affridé, élection africaine.
C'est ça.
Un jour, si j'ai le temps, je vous dirai pourquoi j'ai pas retenu votre candidature.
Mais là, j'ai piscine.
Ouais, voilà. Et donc, il y a eu deux candidatures qui ont été retenues, dont 9e Art Plus. Et c'est là, en fait, qu'ils ont décidé de... Devant la levée de bouclier, ils ont décidé de faire machine arrière, de dire non, mais on va refaire ça un peu plus proprement. Sauf que c'était trop tard. C'était beaucoup trop tard.
Les auteurs étaient vraiment très très remontés, puisque même après les tentatives...
C'est les autrices qu'ont le premier commencé.
Oui, on va dire. Oui, c'est vrai. C'est les autrices qui ont commencé, mais là, il y avait vraiment un consensus très très fort dans le monde du dessin.
Ouais.
Les éditeurs s'y étaient mis aussi. Là, c'est ce qu'on va parler avec Matadora. On était encore, c'est les éditeurs. Ouais,
et tous les éditeurs indépendants qui en premier aussi ont dit on te croit à la personne qui s'est fait violer, dont j'ai malheureusement pas le nom en tête.
Et là, si j'ai bien compris, les pouvoirs publics s'en mêlent par des retraits de subventions, ce qui fait que effectivement on voit vraiment pas comment ce festival va pouvoir pas d'auteur, pas d'éditeur, pas de sous.
Pas de sous. ça commence ça va se retrouver sur la place de la place centrale d'Angoulême quoi.
Ouais, on voit vraiment pas, enfin il y a officiellement je crois pas que le décès est prononcé, mais
on est quand même en état de mort cérébrale avancée là.
Ça paraît clair.
En fait, il peut plus rien se passer parce que là il y a Média Participation qui s'est retiré. Donc ça fait quand même Dargo, Lombard, Urban, Cana, probablement Dupuis aussi.
Ouais.
Ça fait déjà un bon paquet de un bon paquet de stands qui seront pas remplis. S'il n'y a pas le pavillon des indépendants, et a priori, il n'y en aura pas non plus. Donc là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Il va rester 4 éditeurs qui vont se battre en duel. Je ne pense pas que les gens vont se déplacer pour ça, voilà. Surtout s'il n'y a pas d'auteurs, quoi.
Quels sont les éditeurs, d'ailleurs, qui ont dit qu'ils iraient toujours ou qui n'ont pas dit qu'ils n'iraient pas, vous savez?
Alors, non, mais je sais que Delcourt et Glénat étaient en train de dire qu'ils allaient sérieusement examiner la possibilité de ne pas s'y rendre. Ce qui veut en gros dire qu'ils ne vont pas y aller, parce que si Média Participation y va pas, voilà, ils ont pas clairement dit qu'ils y allaient pas, mais ils ont vraiment pas dit qu'ils
c'est
y allaient.
C'est quoi Média Participation?
Média Participation, c'est un groupe qui représente qui rassemble beaucoup d'éditeurs. Il y a Dargo, Dupuis, Lombard, Urban, Cana. Donc c'est quand même un gros morceau, morceau de la constellation de la BD, quoi.
Ouais. Alors Delphine Groux, elle se défend notamment à travers une lettre qu'elle a publiée, et elle dit, alors je ne vais pas tout nous lire parce que c'est assez long, mais c'est quand même assez, c'est pas piqué des vers, surtout que quand on voit les accusations qui sont portées contre elle et puis contre son collègue, là, son âme damnée, là, elle répond, alors elle dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, c'est chiant parce que j'ai pas imprimé l'affaire, disons pour faire simple, c'est Delphine qui le dit, qu'en n'acceptant pas de nous faire voler, en résistant à ce cas organisé de longue date, assorti d'un parasitisme caractérisé et d'abus de pouvoir, nous avons pris le parti de ne pas renier notre indépendance et nos valeurs. En n'adoptant pas une attitude plus docile, nous avons renoncé à exister plutôt que de rester tranquillement inféodés. Alors, je ne sais pas de quoi elle parle exactement.
On dirait qu'elle est un peu coupée des réalités quand même.
Ouais. Elle continue en disant nous avons peut-être eu à tort la faiblesse de croire que nos convictions préservées de haute lutte depuis notre création résisteraient à cet environnement de désinformation et de déni démocratique pour rester le gage de la pérennité du festival. Fallait-il accepter que nous dérogions à nos principes fondateurs d'indépendance, d'éthique, d'équité et de préservation de notre liberté d'action face au champ politique et économique? Fallait-il accepter un déni de notre incapacité associative qui nous sert de boussole depuis plus de 50 ans? Fallait-il courber les chines au point de nous laisser annihiler dans nos prérogatives décisionnaires?
Mais je vois pas qui a pointe du doigt.
Non, on voit pas qui est pointe du doigt, puis surtout, on dirait qu'elle noie complètement le poisson, en fait.
Ça
veut pas dire grand-chose.
Ouais.
Alors elle parle d'accusations sans preuve, alors qu'ils avaient commencé à se restructurer depuis des mois sur une nouvelle base. Fallait-il retenir un groupe de presse candidat à la position hégémonique pour acheter notre paix et éviter l'assassinat médiatique? NDLR, le groupe Sud-Ouest, dont fait partie la Charente Libre, d'où je tire cet article-là, qui n'a pas attendu cet appel à candidature pour se montrer critique. Fallait-il retenir un syndicat d'éditeurs pour éviter le boycott, indépendamment de celui des autrices? Beaucoup de mensonges ont été proférés, tels celui d'un prétendu refus de notre part d'intégrer la participation aux côtés de notre jury associatif d'une personnalité qualifiée. Beaucoup de procès en incompétence nous ont été adressés, beaucoup de préjugés nous ont été imposés, toutes les barrières ont été franchies. Elle dit même qu'elle a reçu personnellement des menaces de mort et d'intégrité physique. Tombereau d'injures, l'association a également eu son lot d'insanitaires. Est-ce que vous êtes au courant, tous les de ce genre de choses là?
Après, enfin, que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de virulence, je ne serais pas surpris.
Non,
c'est bien possible.
Ce ne serait pas étonnant. Mais...
C'est l'air du temps. Maintenant, je vois pas. Elle essaye de la faire à l'envers, là, en fait. Moi, j'ai l'impression.
Ouais.
Enfin, la meilleure défense, c'est l'attaque, il paraît. Je ne sais plus qui a dit ça, mais enfin, quand même. Là, on agite des grands principes, quoi.
Ouais,
limite, il nous manque le mot de fasciste, quelque part, ça serait pas mal.
C'est ça, c'est vraiment une attaque tous azimuts contre à peu près tout ce qui a été dit, mais tout ce qui a été dit était complètement fondé. Donc, c'est vrai qu'elle sort des grands principes.
Ouais. Après qu'il y ait eu de la virulence et que ça lui paraît agressif, peut-être, mais c'est parce que je crois que beaucoup de gens dans le monde de la BD avaient l'impression de se heurter à un mur et à un système qui était bien en place et qui voulait rien lâcher, quoi.
Ouais, et puis la virulence, elle peut venir des commerçants de Angoulême qui ont de bonnes raisons d'être fâchés parce que ça va leur faire vachement drôle.
Alors c'est vrai que Angoulême, alors je conseille à tous les auditrices et les auditeurs de se rendre sur le fil d'Instagram de Monsieur Rémi Catelin qui lui a déjà proposé des solutions, le salon du décès ou alors le salon du mariage, etc., pour essayer de relancer la bonne vieille ville d'Angoulême. Par contre, la question se pose de savoir, est-ce que, donc là, visiblement pour 2026, janvier 2026, c'est quand même bien mal parti, mais est-ce qu'il y en aura un en 2027?
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand t'as perdu une étoile, c'est comme au Michelin, quoi. T'en prends un coup. Et les subventions perdues, est-ce que tu les vois revenir?
Surtout dans le contexte actuel, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Après,
Madame Dati va-t-elle remettre les sous sur la table?
Alors, c'est vrai que ça tombe au pire moment, parce qu'il faut, c'est la mère Dati, quand même, qui est la patronne de la culture, au pire moment, parce qu'on n'avait vraiment pas besoin de ce type, de ce genre de ministre.
Peut-être les subventions régionales et tout ça vont revenir, parce que, ça devait quand même compter localement, effectivement, comme tu dis, ne serait-ce que l'hôtellerie, la restauration. D'un seul coup, c'était la mecque de la BD, donc tout le monde déboulait, quoi.
Ah ouais, non, c'est 200 000 personnes en 3 jours, quoi. Alors, un week-end, c'est pareil.
Il paraît que sur les chiffres aussi, il y aurait beaucoup à redire. On parle parfois de 400 000, j'ai lu une flopée d'articles autour de ça. On parle de 400 000, spectateurs.
Festivaliers.
Ouais, festivaliers. Et en fait, ces 400 000, c'est un peu, on les compterait un petit peu plusieurs fois. C'est-à-dire que le mode de comptabilité, c'est
à
ce
chaque
que
fois
j'ai
qu'ils
dit.
Entrent, en fait, dans
la ville. C'est-à-dire que nous, par exemple, Quai des Bulles, nous on y va 10 fois pendant le festival. Chaque fois qu'on passe pour aller chercher un auteur ou une autrice dans le festival, poum, une entrée.
Heureusement qu'ils comptent pas à la buvette.
et donc effectivement, même là, les 400 000 seraient peut-être plus proches, comme vous le dites, Monsieur Fifrelin, plus proches des 200 000 en fait.
Ouais, c'est le chiffre que j'ai entendu à plusieurs reprises. Donc 400 000, ça me paraît excessif. Ça fait 500 000 sur une ville comme Angoulême. C'est compliqué à loger,
Et à nourrir, parce que quand on voit le parc de restaurants, de bars d'Angoulême Ville, c'est mort, quoi. Si vous réservez pas,
les gens se battaient pour des sandwichs.
Oui.
Il y a eu du cannibalisme.
Il y a eu
le dernier, c'était horrible. Ouais.
Alors, est-ce que le problème d'Angoulême, en fait, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'il était devenu trop grand?
Non, je pense que le problème d'Angoulême, ils avaient réussi à s'adapter. Pour y avoir été l'année dernière, c'était parfaitement organisé. Il n'y avait pas de problème de ce point de vue-là. C'est vraiment la gestion. C'est l'arrière-cuisine qui est dégueulasse à Angoulême. C'est pas tant ce qu'il va proposer aux festivaliers. C'est vraiment la gestion du festival qui est contestée depuis des années et des années. Après, je pense que les festivaliers, eux, ils se rendaient compte de rien. Il y avait les dédicaces, tout fonctionnait comme sur des roulettes d'un point de vue de personnes
lambda,
où il y avait pas de soucis. Comme ça, le problème c'était vraiment la gestion du festival avec des accusations de management toxique, de probablement de Bondou qui avait placé du monde à lui un peu partout, qui avait des participations dans toutes les sociétés qui étaient plus ou moins impliquées, donc il tirait.
On n'aime pas les hommes d'affaires en France.
Non, mais ça, c'est les socialos qui ont fait beaucoup de mal.
Exactement, depuis 80, c'est la chienlit, moi je vous le dis.
Ça faisait quand même, ces 5 dernières années, il n'y avait pas un bon festival d'Angoulême sans sa polémique. Une année, ils avaient oublié, de sélectionner
des auteurs féminins,
pour le Grand Prix. Ça gêne un peu quand on sait quand même qu'il y a de plus en plus d'autrices dans le monde de la bande dessinée, ça fait un peu désordre. Une autre année, c'était le fait d'avoir confié le prix de l'écologie à Raja, R-A-J-A, oui. Qui est le leader français, voire européen, de l'emballage plastique.
Le plastique, c'est fantastique.
Ouais, on fait mieux en gage d'écologie. Hein. Le vieux prix de Tournesol, qui avait été fondé par un des piliers de Flux Glacial, avait été foutu à la poubelle. Le prix Tournesol qui récompensait, lui, des BD qui mettaient la nature, l'environnement en avant. Eh ben, il avait été purement et simplement viré du festival au profit d'un prix greenwashing, hein, le prix Raja. C'est aussi le doublement du prix d'entrée l'année dernière du festival. Et c'était aussi le choix de certains sponsors comme Quick ou McDo. Je ne sais plus ce qu'ils avaient choisi.
C'était McDo, je crois.
C'était McDo.
Il me semble, ou peut-être Quick, peu importe. Mais c'était un truc de fast-food, ouais.
Et c'est là où je pose ma question.
Il y a eu polémique Vives aussi.
Ouais.
Il y a eu une manifestation des auteurs aussi. Il y a quelques années maintenant, mais il y a 7 ou 8 ans, une manifestation des auteurs par rapport à leur droit à la retraite qui était géré n'importe comment aussi.
Alors ça, on en reparlera, parce que j'aimerais bien qu'on puisse mettre la main sur des autrices ou des auteurs qui font partie des syndicats, mais il y a nombre de scandales, mais là, par contre, pour une fois, Angoulême n'y est pour rien, notamment sur l'accès à la retraite des autrices et des auteurs. Figurez-vous que la caisse auxquelles les autrices et les auteurs pensaient être affiliées a tout simplement oublié de leur prélever les sous. Sauf que arrivé en retraite, et ben incroyable. On vous dit ah ben non mais on n'a pas cotisé pour vous. Comment ça, vous avez pas cotisé? Ben non, on n'a pas cotisé, donc vous n'avez rien. Et ça pose un gros problème. Et techniquement, comme j'ai peur de dire des bêtises, faudra qu'on chope des autrices ou des auteurs qui sont plus au fait. Ah,
c'est
de
le scandale du siècle, hein, quand même.
Ah ouais, parce que vous vous retrouvez déjà que la paye des autrices et des auteurs de BD n'est quand même pas.
C'est pas mirobolant,
c'est
si
quand
vous
même
avez
pas
du
mirobolant. Succès, ouais. Et en plus de ça, vous apprenez que la boîte qui était censée vous assurer votre retraite n'a absolument rien fait.
Oui, mais c'est parce qu'on a perdu le fichier mise à jour.
Vous vous retrouvez complètement à poil et ça pose pas mal de problèmes.
Ah ouais.
Alors, est-ce que c'est peut-être pas une bonne nouvelle, par contre, parce que...
De pas avoir de retraite ?
Non, mais pour revenir au Festival d'Angoulême, le fait que, justement, tous ces problèmes-là se soient développés, Franck Bondou ait montré comment l'aspect noir hein, qui peut se passer dans le cadre d'un festival de BD, est-ce que ça va pas, justement, amener une remise en cause ? Parce que nombre de festivals de BD peuvent peut-être aussi, chacun de son côté, peut-être regarder chez lui si, effectivement, tout est...
Le festival est plus ou moins à reconstruire. Bon, va déjà falloir trouver qui. Ensuite, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le retour des subventions publiques. L'air du temps étant plutôt à l'économie, je ne suis pas sûr que le chèque va revenir aussi imposant qu'il était. Après, que le lecteur se redéplace à Angoulême, je pense qu'il s'en fout finalement quelque part de la ville, tant qu'il y a un grand événement BD, le lecteur de BD ira à la BD, quoi.
Il y a quand même une histoire, le Festival d'Angoulême.
C'est 74, pas non plus, ouais, si je me trompe pas.
C'est ça, c'est pas rien non plus. Mais je sais pas si le changement de ville, enfin, qu'il y ait un changement de ville, finalement, peu importe, des festivals, il y en a un peu partout en France, de toute façon. Après, le Festival d'Angoulême était quand même vachement renommé et reconnu. Il y avait des expos qui étaient chouettes. Enfin, c'était quand même un festival qui était bien fait. De fait, la capacité d'accueil de la ville d'Angoulême, par contre, pour les auteurs, les autrices et les gens qui voulaient rester une nuit, ou les gens qui tenaient des stands et qui se retrouvaient dans des gourbis payés à prix d'or, ça, c'était quand même un peu gênant.
Mais ça, c'est indépendant de la.
C'est pas le festival qui. Enfin, c'est le festival qui crée ça, mais c'est pas de la faute du festival.
Voilà. Exactement.
Par contre, il y a d'autres festivals qui ont adopté d'emblée une démarche différente. Je veux pour exemple le festival BD de Blois, le BD, ouais. BD Boom, c'est ça, un truc comme ça.
Ouais, festival BD Histoire.
Et à Blois, comment dirais-je, là, les entrées sont gratuites. C'est le modèle économique qui veut ça. Les auteurs sont rétribués. Il y a trois intervenants qui contribuent à rétribuer les autrices et les auteurs pendant le festival à travers les dédicaces, etc., etc. Donc peut-être que cette tragédie d'Angoulême va peut-être aussi permettre d'amener aussi à parfois d'un mal on peut tirer un bien aussi parce que on pouvait pas continuer non plus comme ça année après année.
C'est l'occasion. D'un reset et d'une réforme, ça c'est clair.
Oui. C'était, je pense que de toute façon, il y avait quand même une espèce de fuite en avant de 9e Art Plus qui a jamais voulu lâcher le morceau, qui a jamais voulu reconnaître quoi que ce soit.
Vous ne nous aurez pas
jusqu'à se prendre le mur. Et finalement, c'est mérité. Ils ont vraiment cherché finalement.
Bah, le connaît-on vraiment, ce monsieur Bond?
Bah, en plus, il comptait se retirer pour laisser sa fille. Mais il sait pas ce que veut dire le terme népotisme, à mon avis. Mais
ça, c'est grandiose.
Mais contractuellement, je crois qu'il était encore jusqu'en 2027. Ouais,
ouais, il était c'est encore ça, jusqu'en 2027, ouais. Et là, il disait qu'ils allaient examiner les candidatures à partir de 2028. Mais là, ça fait 3 ans. Mmh. C'était encore une manière de noyer le poisson, de gagner encore un peu de temps. Mais c'est ce qu'ils font depuis des années. Donc,
c'est ça. Ouais.
Ça peut plus fonctionner. Au bout d'un moment, les gens se rendent compte que leur manque quand même. Quoi.
Ça pose problème parce que ça veut dire que pour les deux prochaines éditions, c'est-à-dire c'est le 2026 et 2027, c'est toujours en 9e art plus.
Oui, je pense que le contrat va être cassé.
Bah ouais. Et il va pouvoir exiger, 9e art plus, va pouvoir exiger des dommages et intérêts.
Oh, ça sent les bons vieux procès hollywoodiens.
Ça va être sport.
Avec des tas d'avocats.
Après, dans la mesure où le festival n'a pas pu se tenir, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir se retourner contre grand-chose, en fait.
Ouais. Il n'y aura peut-être plus de sous.
Bah déjà il n'y aura pas de sous et puis surtout à un moment ça peut être bien de faire profit bas. Après je sais que ce genre de personnes c'est pas forcément ça qui les anime, mais
Ok.
De toute façon, il est définitivement cramé, donc autant y aller à fond. Alors,
Cortès.
Vous, par exemple, en tant que professionnel, en tant que libraire professionnel, vous aussi, vous allez être touché par ça. Je suppose que ça va vous faire perdre des sous, du coup, cette plaisanterie.
Alors, ça va pas me faire perdre des sous, ça va éviter d'en gagner, par contre. Le la présence
c'est philosophe.
Mais non, mais
ça c'est comment c'est bien dit.
Ouais. C'est vrai que c'était quand même d'un point de vue financier, c'était très intéressant pour la librairie.
Il y avait des répercussions.
Ben il y avait des répercussions en termes de chiffre d'affaires parce que sur 4 jours, on faisait pas l'équivalent d'un mois, mais on faisait quand même un gros
quand,
chiffre
quand vous étiez in situ.
Ouais,
quand on mais était en dehors de les années précédentes, puisque c'est juste l'année dernière, vous êtes retourné là-bas. Est-ce qu'il y avait un effet Angoulême autrement?
Négligeable. Non, il y a quelques personnes qui
avaient entendu peut-être parler d'un truc lié à Angoulême venait, et puis voilà quoi. Un prix
qui venait chercher le Grand Prix d'Angoulême. La plupart du temps, c'était des gens qui connaissaient rien à la BD. Je pense que c'était un peu de la curiosité pour voir de quoi ils retournaient. Mais les lecteurs de BD n'ont pas forcément envie d'avoir le Grand Prix d'Angoulême. Soit ils le connaissent et ça les a déjà intéressés, soit ils le connaissent et ça les intéresse pas. On peut pas vraiment dire. Après, je sais pas combien de personnes passaient à la porte de la librairie parce qu'ils avaient entendu parler du festival d'Angoulême.
Ouais.
Mais j'ai pas l'impression, il y avait les répercussions, elles étaient pas notables en tout cas.
Il y a pas l'effet Goncourt.
Non, il y a pas l'effet Goncourt. C'est exactement ça. Il y a pas du tout l'effet Goncourt.
Parce qu'en termes de sorties, autrement, ça va rien changer. Je veux dire, les sorties étaient prévues, elles vont sortir et puis basta.
Non, il y avait des sorties qui étaient prévues pour le festival plus ou moins, mais c'était des hasards de calendrier plus qu'autre chose. Les grosses sorties, c'est en ce moment. C'est là, ça reste de septembre à décembre en fait. Enfin, septembre à fin novembre.
C'est peut-être même plus l'effet Noël qu'Angoulême.
C'est complètement l'effet Noël.
Christmas.
Angoulême, il y avait toujours quand même un ou deux gros trucs qui sortaient. L'année dernière, il y avait Sibylline qui était sortie, qui était très bien, qu'on avait pu découvrir là-bas. Mais grosso modo, c'est pas un festival. Je pense que Cadébul a plus cet effet-là parce qu'il est situé au bon moment. Mais je pense que c'est juste un hasard de calendrier, encore une fois. Parce qu'il est situé fin octobre. Et c'est vraiment le moment de fin septembre à début décembre, c'est le plus gros volume. Enfin, pas forcément en termes de volume, mais en termes de sorties importantes. Du moins de sorties d'auteurs réputés, de sorties attendues.
C'est vrai que Roger et moi avons rencontré Coco au dernier Quai des Bulles. L'album était tout chaud. Quoi.
Ouais.
On l'a quasiment découvert sur le festival.
Vauban aussi.
Le Vauban aussi, oui.
Il y a toujours des sorties pour Quai des Bulles. Il y a toujours des sorties.
Des fois, on reçoit même des PDF, sur l'ordinateur.
Alors justement, puisqu'on parle gros sous, on s'éloigne un peu d'Angoulême. On s'interrogeait il y a 15 jours, lors de ma dernière venue à l'émission, sur les ventes. Comme on a noté quand même que la production d'ouvrages de bande dessinée est toujours aussi pléthorique. Et on se demandait, face aussi à l'augmentation des prix, parce que depuis la guerre en Ukraine, depuis ceci, depuis cela, le prix des livres a un peu singulièrement augmenté. Est-ce que on se posait la question de savoir avec Erwan si le panier moyen de la lectrice ou du lecteur a évolué? Est-ce que vous avez noté une évolution à ce niveau-là? Parce que on voit des ouvrages qui sont excellents et dont on sait que ils vont avoir du mal à dépasser un certain nombre d'exemplaires parce que c'est quand même 35 boules par-ci, 35 boules par-là. Ce qui, au demeurant, ne me paraît pas forcément tellement énorme parce qu'il y a des... Je sais pas, là, je vois Erwan qui joue avec ses gros livres. Le gros, là, par exemple, c'est le code prix.
30 balles pour celui-là, 20 balles pour celui-là. Celui-là, je sais plus. 27.
C'est pas, si on devait comparer ça tout bêtement au prix d'un paquet de clopes, 30 balles, c'est pas cher.
Non, alors.
Mais en même temps, c'est aussi une somme.
Ouais, c'est en fait c'est pas tant le prix des livres qui a augmenté, c'est la volumétrie. Alors le prix du livre a augmenté, soyons clairs, ça a jamais été à la baisse, ça a augmenté. Mais ce qui a augmenté surtout, et moi je tendance à considérer que c'est quand même quelque chose qui est plutôt bien, c'est la taille des, le nombre de pages en fait, la pagination. Avant, il y avait beaucoup de sorties.
48 pages.
Série de 48 pages, carton et couleur, 48 CC, comme on appelait ça. Et ça veut dire que...
Le format fallait, franco-belge classique.
Voilà, format franco-belge classique. Il fallait, en gros, à part pour les Astérix ou les titres de ce type-là, il fallait, en gros, acheter 7-8 albums pour avoir une série complète. Donc, C'était un peu pénible, il fallait attendre 7-8 ans aussi surtout quoi. Maintenant c'est vrai que les auteurs ont un peu plus les coudées franches parce que les lecteurs en ont eu marre des séries et que personne ne voulait plus commencer de série parce qu'ils disaient ah oui mais là, je vais acheter un le tome 1 mais il n'y aura peut-être jamais de tome 2 parce que certains éditeurs faisaient ça, c'est arrivé
souvent.
Soleil était plus le spécialiste
d'une fois. Oui.
Soleil c'était vraiment les spécialistes
remboursé
et du coup les gens en ont eu marre donc du coup et puis les auteurs en avaient marre aussi d'être cantonnés à ce format quand eux ils avaient des histoires qui tenaient pas forcément en plusieurs tomes mais qui d'un seul tenant était parfaitement viable. Donc du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé. Moi je l'ai vu vraiment c'est au cours des 5-6 dernières années ça a commencé à changer. Et là on est arrivé à un moment où c'est quelque chose qui est parfaitement admis par tout le monde. Donc par contre effectivement ça fait des livres qui sont beaucoup plus chers
mais plus beaux aussi,
mais qui sont plus beaux, qui sont plus travaillés, les auteurs ont eu plus de temps pour le faire, enfin c'est ça donne des ouvrages qui sont plus intéressants à lire. Le point noir, si on peut parler de point noir, c'est que pour nous, libraires, on a toujours autant de livres, mais ils sont beaucoup plus épais, donc on a le temps de lire moins de livres.
Regardez vos bras à soulever ces trucs-là.
Ça sculpte des cordes à tête.
On ne veut pas entendre d'excuses quand vous êtes là, à trois dans la boutique, et que vous nous insultez quand on arrive, quand on veut.
C'est parce que vous êtes en état d'ébriété, monsieur.
Ouais, voilà. C'est comme vous avez travaillé pour 9e Art Plus.
Non mais ceci dit c'est un problème de riche, c'est quand même vachement, moi je préfère ce genre de format parce que c'est plus agréable. Après effectivement pour un lecteur qui vient avec un budget limité, c'est plus compliqué de trouver quelque chose de qualité avec un prix plus abordable. Pour ce qui est du panier moyen, le panier moyen a augmenté, mais il n'a pas augmenté aussi vite que l'inflation des livres. Si vous voulez, c'est-à-dire que les gens, tout bêtement, ils achètent moins de bandes dessinées. Ils les payent plus cher, mais ils en achètent moins.
Ils choisissent beaucoup plus.
C'est là que nous, on a intérêt d'avoir lu beaucoup de livres, en fait. En ce moment, c'est un peu de l'abattage. On lit énormément de choses. Mais parce que quand on met 30 euros dans un livre, on a le droit d'être bien conseillé et d'avoir un truc qui plaise, quoi.
Ah bah c'est là où on va dire certaines boutiques font leur travail, puisque effectivement on nous dit, même si des fois c'est j'en discutais avec un individu dans une certaine boutique, même si l'album était très attendu, s'il est pas bien, on va te le dire quoi, parce que c'est 30 ou 35 balles.
Ouais c'est normal.
Et pourtant il fait le buzz quoi, parce que c'est le nouvel album de Trucmuche, c'est vachement bien, et en fait
parfois c'est
ton libraire.
Il y a plus l'achat coup de cœur alors.
Si.
Toujours.
Si, il y a toujours des achats coup de cœur.
Il y a après, toujours le furtif de 18h.
Le truc, c'est qu'après, nous, à la librairie dont on taira le nom, on part du principe que si la personne ne nous demande pas notre avis, c'est qu'elle n'en a pas forcément besoin. C'est qu'elle n'en a pas forcément besoin et qu'elle n'a pas envie de l'avoir.
Ou alors que vous lui faites peur.
Mais ça, je ne pense pas. Alors que je regarde. Carpetto, Matadora éventuellement peut faire peur.
Si elle Monsieur
Carpetto est sans pitié. Même si c'est que vous avez plus beaucoup de sous pour nourrir vos gosses, il vous vendra quand même l'intégrale de Spirou.
Carpetto essaiera toujours de vous tirer jusqu'à votre dernier centime.
Ah, ça c'est
et clair.
C'est bien clair.
Pour ça qu'il est rétribué à un prix.
Oui, c'est vrai que les vendeurs comme ça. Moi, l'autre jour, il m'a vendu l'intégrale de la Révolution française en 12 tomes. Voilà, je veux dire, c'est le métier, quoi.
C'est un métier, c'est ça un coup qu'il préparait depuis longtemps.
Je vous mets un petit tote bag.
Par contre, il n'est pas chien sur le tote bag, parce que pour porter les 12 tomes, il m'a fallu au moins 3 tote bags. Gratuit, je les ai eu gratuits.
Alors, je vais en parler avec lui.
Parce que ça, c'est pas normal.
Ça, c'est anormal.
Après, dans la boutique, des fois, les gens peuvent partir sans payer. Moi, j'ai vu ça.
On s'est trompé, figurez-vous. On s'est trompé.
C'est vrai ?
Oui, c'était un paiement liquide. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait les.
Ils lui ont couru après ?
Non, parce que.
J'ai attrapé un gosse au hasard, je l'ai accusé.
Et vous avez appelé ses parents et la police, vous avez
évidemment
bien fait.
Et je l'ai humilié publiquement.
Est-ce qu'on s'écouterait pas un morceau de musique,
si,
les gars ?
Tout à fait.
Parce que le
on
temps
a
passe.
On a assez parlé
hein.
dessous et puis il est déjà tard.
Exactement. Programmation à Mister Sperm Birds. Thank you. son dieu chevauche un skateboard, quoi.
Exactement.
Je crois que c'était l'idée du texte.
Oui, non, il le
les
dit.
Les Spare Birds. Vous êtes énervé, hein. Vous
étiez énervé. J'aime bien, mais ça me rappelle ma jeunesse, qu'est-ce que vous voulez.
C'est vrai, vous faisiez du skate.
Non, mais j'avais des cheveux.
Ah Roger vous a regardé.
Je ne dis rien, je ne dis rien. Je vais lui conseiller mon barbier.
Qu'est-ce que je veux dire, les messieurs, on est quand même là aussi pour chroniquer, parce que la BD est toujours vivante, là. On a enterré Angoulême, mais il se passe encore des tas de trucs, comme on est en train de le dire.
Plein de bonnes choses.
À vous l'honneur, mon bon Carpetto.
Non, c'est pas Carpetto, c'est Fifrelin.
Ouais, Fifrelin. Mais je voulais le vexer.
Ouais, non, je le prends bien. Carpetto reste malgré tout une personne de grande valeur.
Ouais.
Je le reconnaîtrai jamais publiquement. Ah bah si, je suis en train de le faire. Je suis venu avec Le Petit Gendarme ou l'enfance de Riquet de Théo Grosjean.
Ah.
Au Livre du Futur. Les Livres du Futur, c'est la maison d'édition de Riyad Satouf.
Ouais. Théo Grosjean, c'est le gars super stressé, là.
C'est
je sais plus comment ça s'appelle,
c'est ça. Hypochondriaque. Et c'était le
mec le plus angoissé du monde, quelque chose comme ça.
Le mec le plus flippé du monde. Et donc là, il vient avec un ouvrage qui est complètement différent. Je sais pas si c'est autobiographique. J'ai envie de le croire. C'est pas totalement un hasard que ça se retrouve aux éditions du Futur.
Ah oui, ça fait très l'Arabe du Futur.
Exactement.
Hein.
Le dessin fait un peu penser à l'Arabe du Futur aussi, même si on reconnaît quand même le trait de Théo Grosjean. Et donc dans cette BD, il raconte les premières années de sa vie qui se passent en grande partie dans une gendarmerie parce que son père est gendarme. Donc au début, c'est un peu mon père ce type qui m'inquiète, jusqu'à devenir mon père ce héros. Sauf que il se rend compte aussi que son père, c'est un type qui est pas forcément complètement recommandable. Mais comme c'est vu à hauteur d'enfant, évidemment les choses mettent du temps à se dessiner. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'au départ, son père, il est représenté sous une forme de, enfin son visage, sa tête, son visage est représenté par une espèce de figure géométrique dont des faces vont tomber petit à petit jusqu'à ce qu'il
dévoiler
le vrai visage de son père.
Métaphore.
Exactement. Et donc c'est en bichromie, hein, vert et blanc. Et on va donc découvrir que ce type qui est un gendarme, donc qui est censé garantir la quiétude et la sécurité des citoyens, dans le foyer peut être un type
tyrannique,
assez tyrannique, et avoir des comportements qui sont vraiment super limites, notamment avec les deux autres enfants, ces deux enfants aînés. Avec qui il est parfaitement odieux, notamment sa fille, après qui il en a pour des raisons que lui seul connaît. Et puis surtout l'éducation viriliste qu'il essaye d'enseigner au petit Riquet, donc. Parce que il lui apprend qu'un homme ça pleure pas, qu'un homme c'est fort, qu'un homme c'est.
On est dans quelles années, là, à peu près?
Ouais, c'est les années 80. C'est vraiment les années 80. Il y a des repères, en fait, avec les films qui sortent.
Culturels.
Des repères culturels qui permettent de situer ça. Et c'est très, très chouette. Ça se lit vraiment facilement, comme l'Arabe du Futur. C'est pas la BD de l'année, mais ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'avait fait Florence Dupré-Latour. C'est vraiment entre Florence Dupré-Latour, son dernier bouquin, dont j'ai oublié le titre, qui était vraiment bien, et l'Arabe du Futur. Il y a un truc, mais comme l'Arabe du Futur, il y a un côté un peu doux amer, parce qu'on se rend compte que l'enfant perçoit des choses et l'adulte qui lit le livre se rend compte qu'il y a des choses qui sont problématiques, en fait.
Ouais.
Donc c'était vraiment très très efficace comme récit. C'est bien raconté, c'est bien mené.
C'est du one shot?
Non, c'est vraiment les premières années. Je pense pas qu'il y en aura 6 comme l'Arabe du Futur. Parce qu'il y a moins de choses malgré tout à en dire, ça va plus vite, en fait. Mais il n'y a pas le changement de pays, il y a moins d'exotisme si on veut, et le personnage est peut-être pas autant une saloperie que le père de Riyad Satouf, qui coche quand même un nombre de cases assez impressionnant.
Mais il y avait le fond, il y avait aussi le fond Bachar et tout ça dans l'Arabe du Futur qui donnait matière aussi à raconter des tas de choses.
C'est ça. Là, il y a un peu moins ça. Et puis il y avait la relation que le petit Riyad avait avec des camarades, parce qu'il y avait ce côté aussi changement de pays, donc culture complètement différente. Lui qui se faisait traiter de juif parce qu'il était blond, et parce qu'il n'était pas de là, tout simplement, en Syrie et en Libye. Donc, ceci dit, une lecture assez, vraiment très appréciable.
Et donc, ça s'appelle
Le
ça
Petit s'appelle... Riquet. Non, Le Petit Gendarme ou L'Enfance du Petit Riquet.
Voilà.
C'est paru aux éditions
Livret du Futur.
Et c'est signé
Théo Grosjean.
Oh la vache, on voudrait monter une chorale.
Bah ouais.
Je m'y colle ou vous y collez? Ah, vous l'aviez annoncé il y a fort longtemps, il faut quand même le chroniquer.
Il y a fort longtemps, je l'avais annoncé il y a 15 jours, mais je venais de l'avoir, donc j'avais pas encore eu le temps de le lire.
Pourtant, c'est une réédition.
C'est une réédition, Mes années à Rakiri, que nous devons à messieurs Daniel Fuchs, messieurs Joub et Nicobi, un petit peu les locaux de l'étape. Mmh. Alors, on va pas se mentir, c'est paru chez Glénat et c'est une réédition et c'est Glénat l'éditeur, mais c'est également les Cahiers de la bande dessinée en fait qui ont ressorti ça. En fait, c'était déjà sorti une première fois et il y en a une ressortie, une ressucée, certains diraient, plus complète avec un dossier fort complet derrière, avec tout un glossaire.
C'est écrit tout petit.
Et une véritable
au moins du
histoire.
Corps 6.
Drakiri, une histoire pleine de bêtises et de méchanceté. Parce que Mes années à Rakiri racontent la rencontre entre messieurs Joub et Nicobi de monsieur Daniel Fuchs. Daniel Fuchs, c'était le frangin d'un photographe d'Arakiri. Hein, qui prenait les romans photos, les publicités qu'aujourd'hui on ne pourrait absolument plus publier, c'est clair. Et monsieur Daniel Fuchs va devenir un petit peu l'homme à tout faire du professeur Choron. Il va devenir à moitié comptable, à moitié représentant, à moitié vendeur, chauffeur, camelot. Il va tout faire. Il servira même de modèle pour certaines des publicités d'Arakiri, non des moindres. Et c'est ce que Daniel Fuchs raconte à messieurs Joub et Nicobi, qui sont tous les deux des fans de ce journal. Peut-être encore plus, d'ailleurs, monsieur Nicobi que monsieur Joub, d'ailleurs, qui est un... Monsieur, alors, je ne sais pas pour monsieur Joub, mais je sais que monsieur Nicobi est un collectionneur de bandes dessinées, comment averti. Et justement, la bande dessinée comme ça commence comme ça. On les voit fouiller dans un bac. Ouais. Ils voient plein de vieux harakiri et tout. Ils sont tout contents. Et puis, ils branchent le marchand. Et le marchand d'occasion n'est autre que monsieur Daniel Fuchs.
Vous l'avez connu, Daniel Fuchs?
Mais oui, il vient régulièrement à Saint-Malo.
À Saint-Malo, ouais, c'est pour ça.
Ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs comme ça, d'ailleurs, qu'ils vont le connaître, je suppose.
Je suppose.
Et Daniel Fuchs venait régulièrement. Est-ce qu'il vient encore?
Non, il travaille plus pour Delcourt.
Voilà. Et comment dirais-je, monsieur Fuchs venait régulièrement sur le festival de Quai des Bulles. Et on avait, ça va donner l'occasion à Daniel Fuchs de raconter, c'est pas toute l'histoire d'Arakiri hein, dans la partie dessinée. C'est plus la genèse un petit peu du journal Arakiri et puis surtout aussi les fameux bouclages, la manière dont ça se passait, l'arrivée de jeunes femmes légèrement vêtues. On est dans les années post-68, le sida n'existe pas encore, ou s'il existe, on feint d'ignorer qu'il existera un jour. En tout cas, on se la donne plutôt deux fois qu'une, et c'est une période, on va dire, glorieuse hein, quand même pour la presse indépendante, qui va permettre à monsieur Choron de publier un nombre incalculable de journaux. Hein. Va y avoir, parce qu'il n'y a pas qu'Arakiri, va y avoir Charlie Hebdo, va y avoir BD qui va se casser la gueule, va y avoir plein Charlie mensuel, va y avoir plein de choses qui seront liées à, comment dirais-je, au travail insensé de monsieur Choron. Et c'est M. Choron qui avait poursuivi une espèce de fuite en avant, c'est-à-dire que un journal faisait pas vite, était sur le point de faire faillite. Eh ben, on va faire encore plus de pages et en couleur. Et puis c'est tout. C'était
brûlons
nos... voilà. On brûle nos vaisseaux et on fonce. En fait, ce qui va tuer, comment dirais-je, Arakiri au début des années 80, c'est la gauche. Sans le vouloir, hein, on peut dire encore du mal.
Je suis pas sûr que le management de Choron soit été très 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 efficace non plus.
En fait, mais il y a pas que ça. Mais pendant, si vous voulez, quand sous Giscard d'Estaing, les gens effectivement, Arakiri, ça va donner par exemple naissance
à la candidature de Coluche,
etc. Mais avec l'arrivée au pouvoir des socialistes, les gens vont se désintéresser un petit peu d'Arakiri, vont l'oublier.
ils vont avoir l'impression que ça y est, c'est, ils sont
arrivés. Ouais, ça y est, la gauche au pouvoir est arrivée. Mmh. Et puis, puis les mœurs commencent à évoluer. On peut plus trop mettre des frites, comment dirais-je, dans les fesses d'une nana pour faire rigoler le chaland. Les gens rigolent plus. Les gens sont de plus en plus coincés du cul. Et tout ça se terminera par la faillite pure et simple de d'Harakiri. Et surtout par la dernière émission chez Pollack. Comment dirais-je, droit de réponse,
ah oui.
Où tout, lorsque Harakiri justement va décider, et Charlie Hebdo vont décider de se saborder, Michel Pollack va les inviter, mais il va faire l'erreur, ou peut-être qu'il a fait exprès, d'inviter des lycéens un petit peu coincés du cul, et puis surtout des journalistes de minute. Ce qui fait que le plateau de TF1...
explosif.
Le plateau de TF1 va se transformer en bistrot malfamé. Tout le monde va s'insulter et Harakiri, effectivement, finira en beauté à l'issue de cette émission-là. Naturellement, ce livre-là ne reprend pas la renaissance, ne parle pas de la renaissance de Charlie Hebdo entre les mains griffues de Philippe Val, Dieu merci. Et on s'arrête véritablement sur les années Harakiri de Daniel Fuchs. Un grand, grand moment pour tous ceux, effectivement, qui ont envie de découvrir ce qu'était l'humour à cette époque-là, ce qu'était la presse indépendante à cette époque-là, eh ben, cet ouvrage est indispensable, sans compter qu'en plus, ils y ont adjoint, comme je vous disais tout à l'heure, un superbe dossier très complet sur les différentes productions d'Harakiri. On a une chrono, etc., on a des photos, c'est absolument génial, et ça se conclut par une interview de messieurs Joub et Nicobi, par une, comment dirais-je, une rédactrice des cahiers de la bande dessinée qui leur demande effectivement ce qui leur a donné l'idée de cet ouvrage. Mes années Harakiri de Joub et Nicobi, réédition dans la collection Les cahiers de la bande dessinée, c'est paru chez Glénat. Et cet excellent petit ouvrage souple, je n'ai pas vu d'ailleurs dans la boutique dont vous tairons le nom.
Vous avez mal regardé.
J'ai du mal regarder. Il devrait être en vitrine, ce livre-là, monsieur.
Mais les vitrines tournent très vite en ce moment, vous savez.
Voilà, bah, défaut d'être en vitrine, si vous faites pression auprès des représentants de la librairie dont nous tairons le nom, ils seront forcés de le commander. Ils peuvent le faire, ils savent le faire.
Je vous dis qu'on l'a en stock.
Bon, ouais, ils l'ont en stock, donc c'est mieux, vous n'aurez même pas à le commander. Mais Anna Rakiri, un véritable travail d'historien.
Oui, il est très bien, ce bouquin.
Ouais. Ouais, il est très très bien, mais vous aviez lu la première édition,
ouais.
Vous.
Mais effectivement, le dossier a l'air assez riche.
Le dossier est très très riche. Et puis c'est marrant, enfin c'est pas marrant, mais alors, vous voyez, M. Nicobi utilise plein de couleurs lorsqu'il parle du passé glorieux d'Harakiri. Et puis pouf, à la fin, justement pour la fin, pour cette fameuse émission de, comment dirais-je, de droit de réponse, il y a un petit passage en violet.
Ouais.
Et le violet étant la couleur de la mort. Lorsque vous irez à un enterrement, bande d'infidèles, dans une église, le curé revêt une étole en violet. Le violet est la couleur du décès. Et je me demande si Monsieur Nicobi, qui est un fin lettré et quelqu'un qui connaît bien, qui connaît énormément de choses, n'a pas utilisé effectivement le violet pour parler de ça. Bref, c'est un ouvrage très très bien rendu. Moi, j'ai adoré l'espèce de double planche où on voit le bouclage. Un bouclage vu d'en haut, rue des Trois Portes.
Oui, ça a l'air d'être.
Ça a l'air d'être quelque chose. Quoi. C'est quelque chose quand même. Alors, je ne sais pas s'il a rajouté des choses, par contre, dans la partie dessinée, Monsieur Joub, je ne sais pas.
Je ne peux pas vous dire. Il faudrait que je le relise et que je le compare à l'ancienne édition, qui doit être
oui, par
improbable.
Exemple. Par exemple.
Oui, ça aurait été le minimum.
Au lieu de passer votre temps devant la télé, eh ben, vous pourriez effectivement le lire, ce serait très bien. En tout cas, même si M. Fifrelin ne veut pas le lire, faites-le, vous, pour vous rappeler d'une époque où on pouvait effectivement rire de tout sans être voué aux gémonies, voire pire.
Du coup, interlude musical.
Yep.
Puis après, j'essaierai de faire une chronique s'il nous reste du temps. du coup, j'ai été rechercher un morceau pour faire un peu lien avec ce que vous étiez en train de raconter, le professeur Choron, tout ça, tout ça.
Métier.
Alors tu cries, il faut se lever.
Et pour tuer prestement,
par la lame qui saigne à blanc.
Il étudie l'anatomie,
il sait pas où s'en va la vie.
Et qu'on peut pas saigner la vieille,
en lui tranchant le gros orteil.
L'assassin doit se cultiver,
il y a des rôles plus spécialisés.
main. C'est pas du lard.
Le dépeçage est tout un art.
L'assassin, véritable artiste.
Avec un côté de pianiste.
Ne découpe pas, monsieur Dupont.
Comment découpe le cochon.
Pour obtenir de beaux jambons.
Pour faire le contour du caleçon. Y'a assassin et assassin.
Y'en a des moches, y'en a des biens.
Se faire assassiner, c'est rien.
Et on tombe pas sur un sagouin.
Y'a assassin et assassin.
Y'en a des moches, y'en a des biens. Est un gastronome, chevalier du tasse de sang, le sang de l'adulte égoulayant,
ah,
bon sang. Y'en a des moches, y'en a des biens. Si on tombe pas sur un sagouin, y'en a des moches, y'en a des biens. Voir les pages rouges du patin.
Le professeur Sauron, accompagné de Los Carayos, une chanson sur les assassins. Moi, je vais un peu péter l'ambiance, je suis désolé les gars, mais c'est vraiment un très très bel album. Je ne sais pas si vous l'avez lu ça, monsieur Fifrelin.
Non,
Non, pareil, Roger.
Non.
Ouais. Bah, on me l'a prêté, mais c'est vrai que tout de suite, quand tu vois la couverture, tu sais vers quoi tu te diriges. Mansour Kamari nous propose un album autobiographique. Ces lignes qui tracent mon corps relatent finalement deux moments de sa vie. Sa vie maintenant d'exilée iranienne en France, qui essaye de se lancer dans le dessin. Soit en prenant la pause, elle volontairement, elle a choisi d'être
modèle,
donc de nu, et puis elle-même essaye de dessiner. Un petit reportage d'ailleurs est fait sur elle à ce moment-là, parce qu'elle est iranienne, vous comprenez bien que ça intrigue des étudiants en cinéma qui veulent faire un petit reportage, qui ont une espèce de travail à faire, et donc elle est suivie, ce qui la stresse beaucoup, et du coup la replonge aussi dans sa jeunesse en Iran. Et il y a vraiment deux récits, une alternance de maintenant et d'avant dans cette BD qui se voient dans le dessin, puisque dès qu'on va être en Iran, on va être dans le gris, le gris pâle, le gris foncé, on va être vraiment dans le grisâtre. C'est un monde horrible qui est marqué par la peur, surtout quand tu es une fille, quoi, parce que bon, je vous apprends rien, mais c'est vraiment un monde dégueulasse que le patriarcat iranien doit vraiment ressembler à ce qu'on appellerait du fascisme, quoi.
Je pense que c'en est, hein.
Ah oui, c'est vraiment, c'est horrible, la condition féminine est vraiment affreuse, et elle le sent, quoi, elle le vit, elle le remarque, même dès 9 ans, en fait. Parce qu'à partir de 9 ans, ça y est, Tu es déjà bonne quasiment à être engagée, à marier. Et, en plus, elle a un père qui a l'air vraiment d'être un rusto de chez rusto. Je sais pas comment est le père de Théo Grandjean, mais je pense qu'il pourrait. Enfin,
je pense que s'il était iranien, ça
ouais,
serait
le ouais, père ouais. De, je c'est un mec vraiment toxique, quoi. Parce que de toute façon, on sent bien qu'on est dans une culture hyper masculiniste, quoi. C'est horrible de se promener dans la rue quand t'es une jeune fille. Elle met des gros écouteurs pour pas entendre tous les propos salaces. Et dès qu'elle est en entretien, par exemple, pour se faire embaucher dans un studio, les deux gars, on t'embauche. Mais on fait un plan à trois, quoi. Enfin, c'est tout le temps la prédation sexuelle. Le sexe est partout, en fait.
Ouais, c'est
hypocritement
ça, mais
partout.
C'est parce qu'il est verrouillé.
Oui, hypocritement partout. Les mecs ne pensent qu'à ça. Et puis, il y a tout, les crimes de sang en même
chaleur,
temps.
Ou alors les plats épicés.
Non, c'est la connerie. C'est la connerie. Non, c'est la connerie. C'est vraiment la connerie, quoi. Et en fait, dans cette histoire, ce passé est évoqué parce que, il a toujours effet dans le présent de cette jeune fille. En fait, c'est un récit qui est très beau parce qu'il est hyper intimiste d'une nana qui, justement, essaye de se réapproprier finalement son corps, ne serait-ce qu'en passant, par exemple, en tant que modèle, et de se réapproprier sa vie, quoi. C'est l'histoire d'une reconstruction après avoir échappé à cet enfer. Et c'est vachement beau. C'est très poétique. Il n'y a pas énormément de paroles. C'est assez sobre à ce niveau-là, mais il y a des scènes très oniriques. Qui sont vraiment très touchantes. Et il y a plein de scènes très très dures. Il y a une des scènes qui m'a marqué. Elle est à l'école. Elle fait des, comme plein de gamins qui sont attirés par le dessin, elle fait des petits dessins, tu sais, dans les marges de ses cahiers, quoi. Et elle a fait deux espèces de petits personnages, un peu style grenouille, qui s'embrassent avec un petit cœur, convoqué par la maîtresse qui a relevé les cahiers et qui lui dit ne dessine plus ce genre de bêtises sur tes cahiers de cours. L'amour n'existe pas. Bon. Enfin, ça dit beaucoup aussi de comment la nana qui est institutrice a été lobotomisée par le système, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on détruit les rêves des gamins aussi.
Ah,
quoi.
affreusement. Et puis elle barre comme ça le dessin qui est tout choupiné, quoi. Et qui est hyper tendre. C'est vraiment un très bel ouvrage. Alors, c'est pas rigolo. Mais en même temps, c'est l'histoire d'une catharsis, enfin, d'une reconstruction. C'est positif, au final. Mais tu passes par des moments, ouais. Si tu aimes le gros nez, je comprends que tu sois pas attiré par ça. Et c'est vraiment un très, 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 très bel premier album, parce que si j'ai bien compris, c'est le premier album de cette dame, donc Mansour Kamari, qui chez Casterman nous propose donc ces lignes qui tracent mon corps. Voilà ce que j'avais, moi, à vous proposer. Il vous reste un peu de temps, mon bon Fifrelin.
Je vais en profiter.
Ça sent le comics.
Oui, ça sent
le
comics.
Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de comics sur Plume et Pinceau, j'avoue.
C'est du comics, mais pas du Super Slip.
Ouais.
C'est du polar. Donc, c'est Les Acharnés dans la série Criminal de Ed Brubaker et Sean Phillips, qui travaillent quasiment tout le temps ensemble. Et on va retrouver donc, des personnages qu'on a déjà croisés dans les séries Criminal. Criminal, c'est une série... qui propose une histoire par album. Et en fait le point central de la série, parce qu'il n'y a pas de rapport forcément entre les persos, enfin du moins ils évoluent dans un même univers forcément se côtoyer, le point central c'est un bar en fait. Et on va retrouver en fait une jeune fille qui est serveuse dans le bar en question, un bar qui appartient à la pègre. C'était un bar louche de toute manière où seulement les initiés se rendaient. On va retrouver un type dessinateur qui lui a une vie un peu plus reclue, qui fait son truc de son côté. C'est un dessinateur qui fait de l'indé, il est autoproduit et il vend ses BD comme ça à des magasins de comics. Et un type, Kelly je crois, qui apparaît un peu plus tard dans l'histoire. En fait, au départ, la jeune femme en question va trouver refuge chez le dessinateur. Ils arrivent à cohabiter assez correctement parce que...
Assez intimement, je dirais.
Non. C'est pas elle.
Ah, c'est pas elle. C'est autant pour moi.
Roger a l'art de trouver les bonnes pages. C'est un don chez lui.
C'est celles qui sont collées.
C'est un don chez lui. Cherchez pas. Il y a des chiens truffiers. Et ben, Roger, comment vous dirais-je?
Oui,
c'est plus
incroyable.
La bouillave, son truc.
Il y a une scène de sexe dans tout le bouquin et tombe dessus.
C'est page 44, 45. Mais c'est toujours sur ces pages-là que ça tourne.
C'est pas la jeune fille en question, en fait.
30 ans de métier, monsieur.
30 ans que je lis des BD, moi, monsieur.
Et donc, en fait, on va suivre une histoire où les destins vont se croiser. C'est incroyable. Je suis sidéré. Où les destins vont se croiser. Et donc, le dessinateur va avoir une opportunité pour aller travailler à Hollywood à une adaptation en série de sa bande dessinée qui va être un peu une sortie un peu inespérée pour lui. Évidemment, les choses vont pas se passer comme elle le devrait. Et lui, quand il est à Los Angeles, il en profite pour renouer avec sa grande tante. Et va se rendre compte que Hollywood c'est un endroit aussi pourri que ce qu'il s'attendait à trouver. La jeune fille, elle va avoir des démêlés avec un mafieux qui veut récupérer le contrôle du bar. Et il va y avoir une histoire avec l'héritage de la grande tante qu'on va essayer de souffler au nez à la barbe du dessinateur, qui va faire appel à un ancien camarade qu'on a déjà croisé dans Criminology, qui est un soldat des forces spéciales qui a quitté l'armée et qui traîne un sérieux PTSD derrière lui. Donc
c'est toujours des histoires un peu chorales avec des femmes fatales.
C'est ça. Alors il y a pas trop de femmes fatales dans celui-là. Il y a plutôt une petite fille.
Pourtant on va croire Roger.
Ouais, mais c'est une assistante dans les studios d'Hollywood et on la lui a fait à l'envers en fait au dessinateur. Et donc c'est une histoire chorale à la Brubaker effectivement qui fonctionne très bien, qui est bien menée. En fait,
Brubaker, ça monte, voilà, ça pète.
Et il a l'art de faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire que tout ce qu'on croise
il a trouvé une autre page.
101, pareil. Alors ça, c'est pas elle, toujours pas elle.
Alors si, c'est elle, mais avec un jeune homme qui n'est pas le dessinateur toujours.
Ok,
parce qu'ils ont vraiment une cohabitation platonique. Et voilà, on voit un slip baissé après. C'est... Chacun son truc, quoi. Mais bon, le mec pas aux toilettes. Aux toilettes, ce serait pareil. Et donc, je sais plus où j'en étais. Oui,
Du neuf avec du vieux.
Il fait du neuf avec du vieux. C'est-à-dire que c'est que des choses qu'on a déjà vues, mais il les réagence, il les remanie, il en fait quelque chose de très plaisant à lire. C'est un récit policier qui monte effectivement de palier en palier jusqu'à une résolution qui va s'avérer tragique comme à chaque fois avec Brubaker, mais c'est pas non plus il éteint pas tous les espoirs, quoi. Moi j'ai trouvé que c'était un polar, j'avais bien envie de lire un bon polar bien balancé comme ça, comme quand on se fait un bon vieux polar au cinoche, quoi.
Bah, Brubaker, Sean Phillips, c'est du fiable généralement.
C'est ça, c'est de la valeur sûre.
Il y a des histoires qui t'embarquent plus que d'autres, mais t'es jamais vraiment déçu.
Non.
Moi, je me souviens pas d'un album qui m'ait déçu.
C'est ça. Le seul risque qu'on risque avec ces auteurs-là, c'est de tomber sur un truc mieux que ce à quoi on s'attendait.
Ouais.
Donc, du coup, non, c'est bien plaisant. Moi, j'ai trouvé que c'était agréable. Ça sort.
Ça a une couverture hyper flashy, dites donc.
Ouais.
Ça a bouffé de l'acide, là, parce que c'est violet, c'est rose. Violet comme la mort, peut-être.
Peut-être.
J'ai un ami qui connaît
violet,
ça.
Le violet, c'est le couleur de la mort.
Je pense que Brubaker connaît bien sa liturgie, lui aussi.
Ouais, clairement. Interlude musical.
Yep.
Mais oui. Tiger Lily, c'est ça?
C'est ça.
Living Hell. We'll be right back. Oh bah ça sent le Bayou, ça non un peu quand même quelque part, ça sent
Tiger
les.
Tiger Lilies.
Ouais, un petit peu. Ça
c'est
sent le sud quoi.
Qui m'a fait découvrir Tiger Lilies.
Ah ouais, c'est moi.
Ouais, il me semble.
Ouais. Ah ouais, je me souviens plus. Ah c'est possible. À un moment, je sais que vous étiez
avec
très branché
morceau,
là-dessus. Ah un autre morceau.
Morceau avec un autre morceau Tiger Lilies, Héroïne.
Ah oui, oui, exact, exact, exact. Maintenant vous le dites.
Et donc du coup, j'ai
vous êtes notre
Tiger,
mémoire à tous, Roger.
J'ai tapé Tiger Lilies et j'ai découvert un groupe, c'est intéressant. C'est très sombre, hein, c'est flippant un peu.
Oui, oui. Bah après, bon, vous avez voulu faire raccord avec Céline qui trace mon corps, on va dire ça comme ça. Et les polars de l'ami, Frelin. Qu'avez-vous dans vos mains?
Alors, j'ai non pas une bouteille de rouge, mais Palmer dans le rouge, que nous devons à messieurs Pétillon et Larsenet, paru aux éditions d'Argo. Mais comment se fait-ce, me direz-vous, puisque monsieur René Pétillon est décédé en 2018? Eh ben ouais, il est décédé en 2018, mais il avait laissé derrière lui le scénario pratiquement achevé d'une nouvelle aventure de son détective favori, une suite naturelle de l'enquête corse.
Ah, ok.
Et grand admirateur du travail de Pétillon, Manu Larsenet a accepté avec enthousiasme de la dessiner avec son propre style. Donc, on a une adaptation, parce qu'on avait que le scénar. Hein. René Pétillon avait apparemment, je ne sais même pas s'il avait fait
un storyboard
apparemment rien, il n'y avait rien de fait, sauf le scénar. Et Manu Larsenet va être chargé d'adapter le scénario de René Pétillon, comment dirais-je, avec son propre style. Alors, naturellement, on retrouve le personnage de René Jacques Palmer.
Hein,
son vilain père mastic, son chapeau informe, etc.
Son incompétence crasse.
Et de la même manière que on l'a vu dans le showbiz, on l'a vu dans le monde de la littérature, on l'a vu un peu, même en Corse, etc. Hein, Jacques Palmer, il va traverser tout un tas de systèmes économiques et financiers propres à notre pays. Il se met particulièrement le désordre, si c'était encore possible. Et c'est ce qui va se passer également dans les Bordelais, dans le Bordelais, dans tous les crus classés. L'histoire de Palmer dans le rouge narre, en fait, les aventures de Jacques Palmer, chargé de retrouver la fille d'un grand... je sais pas si c'est un demi-domaine, le gros lolo.
Un cru bourgeois vaguement,
ouais,
quoi.
Un cru bourgeois sur les côtes du Médoc. C'est pas... Bon, ça, il arrive encore... Ils arrivent. Mais bon, ils sont un petit peu à la ramasse. Et pour se tirer d'affaire, ils devaient donner leur fille en mariage à Namerlo, qui est propriétaire, mais aussi critique, œnologique. Voilà. Et manque de bol, l'histoire commence par la disparition de la fille. La fille des gros lolos disparaît, et juste à la veille du mariage, elle disparaît, et elle laisse une lettre dans laquelle elle dit, finalement, je me suis trompé,
C'est pas pour moi.
C'est pas mon type d'homme, etc. Elle décide de disparaître dans la nature. Et Jacques Palmer est chargé de retrouver cette héritière promise à un grand avenir dans le domaine viticole. Sauf que vous imaginez bien que naturellement ça va pas se passer tout à fait comme prévu, parce que Jacques Palmer n'en faisant qu'à sa tête. Alors j'ai trouvé que c'était un Jacques Palmer qui était un peu plus, je dirais, pugnace que dans les autres albums. Vous qui l'avez lu.
Ouais, il se laisse un peu moins porter par les événements. Il essaye de faire quelque chose, mais en fait il croit pas trop non plus, que les parents sont persuadés qu'elle a été enlevée. Lui, il est un peu mi figue mi raisin là-dessus. Il dit
ouais.
Que c'est un peu bizarre.
Et en fait, quand il lit la lettre, Jacques Palmer, il leur dit, elle s'est barrée, dès qu'elle va revenir une fois que l'affaire là sera tassée, terminée, puis vous allez changer de gendre. Et ils veulent pas, les parents, non, c'est pas possible, pour un peu, elle a été enlevée par des concurrents, etc. Et donc, Jacques Palmer est chargé de la retrouver envers et contre tout. Naturellement, le penchant et les qualités d'enquête de Jacques Palmer vont le pousser vers une mauvaise piste, une piste qui n'a absolument rien à voir avec le Schmilblick, mais qui nous fait découvrir tout un pan de la culture vinicole française, à savoir les contrefaçons et les saloperies dans le pinard.
Ah.
Et c'est là-dessus, en fait, que Jacques Palmer va mettre la griffe, plus que sur la jeune fille qui va finir par réapparaître.
Oui, c'est un prétexte, finalement.
C'est un prétexte. Et c'était le prétexte, peut-être, pour René Pétillon, pour régler ses comptes avec l'industrie pinardière et montrer comment, effectivement, ans, on ne fait pas que, il n'y a pas que de l'eau claire dans le Beaujolais. Il y a aussi autre chose. Vous voyez ce que je veux dire?
On reconnaît le dessinateur qui officiait au Canard Enchaîné, en fait.
Voilà. Et comment dirais-je? Alors, est-ce que c'est une réussite? C'est toujours. Moi, c'est marrant, hein, comment dirais-je? Alors, si, d'après ce qu'on a lu, d'après le dossier qu'on peut lire, il paraîtrait que M. Larsenet était un grand fan de M. Pétillon. C'est pour ça qu'il a accepté de se charger de cette adaptation. Et je trouve que c'est très courageux de sa part, parce que c'est quand même assez casse-gueule, quand même, de reprendre le travail de quelqu'un d'aussi connu, Creuset Pétillon.
Après, c'est Larsenet, c'est pas comme si c'était oui. un inconnu au bataillon non plus.
Oui, c'est, talent, ça, c'est sur plein de titres, hein. Lucky Luke, par exemple, ça se fait sur plein de titres maintenant. Valérian,
Valérian était très très bien.
Ouais. Le Valérian, d'ailleurs, j'avais préféré le Valérian à celui-ci, Palmer.
Ouais, il était plus réussi, je suis d'accord.
Hein ouais. Mais là, il faisait tout, là, il faisait le scénario et le dessin.
Mais avec la bénédiction des auteurs en plus.
C'est vrai. Alors que là, il était quand même forcé de coller au travail de René Pétillon.
Ceci dit, moi, j'ai pas l'impression qu'il se force. Je pense que c'est un album qui, après ce qu'il vient de faire, là, la route, les
décompressions.
Les albums qu'il y a eu avant, les blasts, les.
Beaucoup plus torturé, ouais.
Ouais, qui étaient des bouquins qui étaient même lourds et durs, quoi. Là, ça lui fait une respiration, je pense.
Ouais.
Je pense qu'il l'a fait parce qu'il admirait aussi, effectivement, Pétillon.
Alors, ce qu'il y a de bien, quand même, ce qu'il y a de ce qui est particulièrement réussi, c'est qu'on retrouve les exploits automobilistiques de Jacques Palmer. Vous savez qu'il partage un point commun avec nous, c'est qu'il ne sait absolument pas conduire. Mais il conduit quand même, pour le plus grand malheur, notamment
d'un grand cru.
D'un grand cru qui lui est classé et dans lequel Jacques Palmer n'arrête pas de se foutre avec sa bagnole.
Quand il vautre pas des camions.
Voilà, quand il n'y envoie pas des camions. Il y a aussi également le personnage du cousin Corse.
Ouais.
Ah, le cousin Corse, comment dirais-je, avec son vin franc, qui a de la gueule, mais qui est peut-être parfois un peu trop franc. Le personnage du Corse est particulièrement réjouissant.
Et, ouais, c'est drôle quand même, alors, finalement.
Ouais. Comment dirais-je, on rit, mais comment vous dire? Alors, peut-être aussi que c'est parce que le scénario, tout en étant fini, ne l'était peut-être pas tout à fait non plus. Peut-être que certains gags n'étaient pas encore mis en place, j'en sais rien. Mais en fait, moi, ce qui m'a un peu perturbé, c'est que Jacques Palmer, et finalement, il fait son boulot, quoi. N'importe comment, mais il le fait.
Ouais, mais ça a toujours été le cas.
Ouais, mais je trouvais qu'autant dans les autres épisodes,
il était plus naïf.
Et d'ailleurs, il tenait moins l'alcool. Là, je trouve qu'il tient un peu trop l'alcool.
Il a du mal à un moment.
Il a du mal, parce que comme il est lancé sur une fausse piste, il se tape tous les salons Et là, vous imaginez bien qu'il remplit sa bagnole de bouteilles. Ça se termine à chaque fois dans les crus classés. C'est assez drôle. Mais, je sais pas. Est-ce qu'il. Je sais pas. Je ne sais pas quoi dire de ce Palmer dans le rouge.
C'est peut-être le fait que ça soit pas Pétillon qui dessine qui vous a perturbé.
Pas tant que ça, parce que je trouve que on l'oublie rapidement. Non pas qu'on oublie le dessin de René Pétillon, mais sans être de la pâle copie, Monsieur Larsenet a fait, comment dirais-je,
il s'en approche quand même. Hein.
Il s'en approche terriblement. Hein.
Respectueux.
Ouais, très respectueux dans la forme des tarbouifs.
Et en même temps, on reconnaît quand même bien le trait de Larsenet aussi.
Ouais.
Il est capable de faire des personnages à gros nez comme ça. Tu reprends les Bill Baroud, ils avaient ces tronches-là. Hein.
Ce qui fait qu'on retrouve les deux, en fait. On retrouve et à la fois le trait de Pétillon et à la fois le trait de Larsenet. Et puis, il y a cette touche. C'est marrant, ça me fait plaisir que ça vous ait marqué également. Sur la dernière case. Et là, on sait. Alors, c'est peut-être aussi parce que j'étais un peu nostalgique. J'ai mis du temps. J'ai été l'acheter à la librairie dont nous tairons le nom. Et comment dirais-je. Et je dois avouer que j'ai dit à
Il l'avait déjà.
Déjà, il l'avait. Ils ont bien voulu me le vendre. C'était assez exceptionnel.
On a toujours deux, trois bouquins sous le coude.
Il y avait pas de petits suppléments, donc j'étais sûr de pas me faire arnaquer. Hein, donc là, il y avait pas de caisse de rouge qui était vendue avec, donc ça allait.
Et c'est quand il te file un chien qu'il faut se méfier.
C'est surtout la dernière case qui vous a aussi touché particulièrement. Moi, je sais que j'ai emmené ce livre-là, je l'ai mis sur mon lit et j'ai dit à ma chérie, je vais le lire ce soir après manger. Vous savez, comme on dit, on déguste un bon gâteau qu'on attend avec impatience. Et donc, je savais que passer la lecture de cet ouvrage-là, ça en serait fini de René Pétillon. Plus jamais on ne lira quelque chose de nouveau de René Pétillon. Donc, j'étais tout le long de ma lecture partagé entre le rire, parce qu'on rit quand même, il faut le dire.
Ouais, et puis on reconnaît des gags que Pétillon a écrit quand même. Il y a certains trucs, on sait que c'est lui.
Le running gag, bah, la voiture qui se retrouve toujours dans le grand cru classé. L'obstination de Jacques Palmer à faire de la merde. Et puis cette dernière case qui, elle, par contre, est forcément un ajout de M. Marcenet. Forcément, hein, on voit comment Jacques Palmer qui va trinquer avec le cousin corse. Et le cousin corse dit à Jacques Palmer, dites, j'ai trouvé dans la cave personnelle de Fernand une bouteille de ce vin surcoté et prétentieux, mais qui présente l'avantage d'être pétillon. Voulez-vous pétiller, Monsieur Palmer ? Et Monsieur Palmer trinque avec le corse et il dit, pétillon. J'ai cru que j'allais pleurer à cette dernière case.
Ouais, voilà. Je trouvais ça très mignon aussi.
Ah ouais, ça m'a particulièrement touché.
Eh ben, vous l'avez superbement spoilé.
Je m'en fous, de toute façon.
Ça, c'est vraiment la petite touche finale. Ouais.
Oui, et puis ça ne dit rien de l'histoire. Non. C'est juste ce petit cadeau que Larsenet a fait à Pétillon. Et qui, moi, rien que le fait d'en parler, j'allais dire le rouge me vient aux yeux, presque. Palmer dans le rouge, une enquête en bord du Médoc, Pétillon et Larsenet. Alors, j'ai bien aimé aussi, la présentation. Ils reprennent les étiquettes. Palmer dans le rouge, une enquête en bord du Médoc, une aventure de Jacques Palmer mise en bouteille par les éditions d'Argo. 14,5% de volume, 75 centilitres. Et ça reprend le logo des étiquettes. Vous ne pouvez pas vous tromper, un ouvrage tout rouge, comme le vin du même nom, Palmer dans le rouge, une enquête dans le Médoc aux éditions d'Argo. Voilà.
5 minutes. Bon, c'est une suite, donc ça peut se chroniquer en 5 minutes.
Ouais.
Ouais. J'ai quand même envie de le chroniquer. Les guerres de Lucas, épisode 2. J'espère que vous aviez suivi effectivement le premier épisode, hein, où on a raconté, où Renaud Roche et Laurent Hopman nous racontaient toute la genèse, hein, du premier de ce qui sera Star Wars, trilogie.
Mais je vois que vous avez un ouvrage spécial.
Mais oui, c'est un ami qui me l'a prêté, c'est l'édition spéciale Fnac justement, oui, avec une autre couve.
C'est les libraires qui se tapent tout le boulot de.
Ouais, c'est vrai.
Eh, c'est vraiment dégueulasse.
C'est vrai. Bon, ben, on me l'a prêté et il. Voilà.
Mais c'est pas à vous que j'en veux, c'est aux éditions. Ah. Si on n'avait pas fait le boulot pour eux.
Faudra vous additionner à Demain Édition, je connaissais pas d'ailleurs.
Ouais, c'est assez récent, ouais. Je les ai découverts avec le tome 1 des Guerres de Lucas.
Ouais,
les Guerres de Lucas. Quelle édition, vous dites ?
Demain.
Ouais.
D-E-M-A-N. Comme Demain, tout le monde.
Demain. D-E-M-A-N.
Donc un roman graphique qui va nous raconter la naissance de l'Empire contre-attaque, hein, le tournage de l'Empire contre-attaque. C'est un peu le même principe que le premier épisode, puisque c'était le tournage de Star Wars. Et c'est toujours aussi bien parce que c'est vraiment toutes les péripéties qui arrivent à ce pauvre George Lucas, type extrêmement angoissé s'il en est. Pendant ce tournage avec et puis c'est vrai qu'il lui arrive toujours des tas de merde.
Moi j'étais un peu inquiet quand on nous l'a annoncé, parce que je me suis dit, mais avec tout ce qui lui est arrivé dans le premier, le deuxième il devait être arrosé de pognon, donc il aurait pas dû avoir de problème. Et en fait si
il explose même les budgets, alors qu'effectivement il a vraiment l'idée de en fait l'idée géniale, c'est le merchandising, quoi, qui lui permet d'avoir une certaine autonomie et indépendance. Bon, il a coquiné avec les studios, parce qu'il faut s'accoligner avec studio, mais il a pu négocier quand même une certaine indépendance. Mais il a le don, effectivement, qu'il se passe des tas de merde pendant ses tournages, puisque ça se passe dans la neige. On va en Norvège et là, je sais pas pourquoi, c'est la pire tempête de neige qu'ils ont eu depuis 150 ans. Même les Esquimaux n'en reviennent pas. Marc Hamill, forcément, se plante la gueule en bagnole alors qu'on va à peine commencer le tournage. Et puis, on doit lui reconstruire le nez. Donc, c'est plus tout à fait le même physique. Va falloir trouver un truc pour expliquer pourquoi c'est plus le même gars, pourquoi il est plus aussi juvénile. D'où la scène d'un introduction dans l'Empire contre-attaque où il se fait attaquer par une grosse bébête qui lui griffouille la gueule. Tu vas découvrir tout ça, aussi les déboires de ses équipes, de ses acteurs.
Les intoxications au gaz,
parce que on veut faire de l'effet spéciaux et ta-ta-ti-ta-ta-ta, parce qu'il est hyper exigeant. C'est un type qui sait ce qu'il veut faire, quoi.
Est-ce qu'il parle du refus de Princesse Leia de porter un soutien-gorge ?
Non, pas dans cet épisode-là, non.
Parce que j'ai découvert ça l'autre jour, que Princesse Leia refusait de porter des soutiens-gorge.
Non, là on la découvre plutôt accro aux pilules, quoi.
Ouais.
Ouais, ouais,
mais
ouais.
Oui, oui, j'ai entendu parler de ça, mais ceci ouais. dit, le pendant le tournage avec la créature, la Jabba the Hutt, elle est bien en bikini, en fait.
Oui, exactement.
Mais après, c'est quand elle porte sa petite tunique blanche.
Ah, qu'elle ne pouvait pas porter de soutien-gorge dessous.
Voilà.
Ah. Non, mais c'est... Ouais, et alors
Et alors, c'était et voilà. justement...
2025, il faudra le dire combien de fois.
Mais des choses qui m'intéressent quand même dans les guerres de Lucas.
Ouais, comme dans les acharnés, visiblement.
Mais ce deuxième volet est vraiment super bien, quoi, parce que c'est plein de rebondissements, il se passe des tas de trucs. Bon, tu sais que le film va finir...
Comme pour le premier. On savait que le film allait faire, mais à un moment, on finit par en douter.
Oui. Parce qu'en plus, il a plusieurs feux. Tu découvres la naissance de l'homme au fouet et au chapeau d'Indiana, ouais. Indiana Smith au départ.
Oui, c'est ça. Puis c'est pareil, c'est un type, il sait quand même pas écrire des scénarios ni des dialogues. Quoi. Ça, c'est un truc, ce sera une constante chez lui.
Ouais. C'est passionnant, quoi. Et puis, il faut même pas spécialement être, féru de cinéma pour se lire dans ça.
Il n'y a pas besoin d'avoir vu les Star Wars, finalement.
Ouais, ça devient un film à part entière, ouais. En fait, cette histoire. Et c'est toujours aussi bien. Alors, tout le risque, comme vous disiez, c'est le deuxième épisode. D'ailleurs, c'est aussi ce qui lui pend au nez, le stress du deuxième épisode.
Il faut faire toujours mieux. Ouais.
Le syndrome du deuxième album pour un groupe, sans trop finalement innover, parce qu'on reste dans la lignée, on s'appuie sur une rigueur d'information, etc. Et puis ensuite on organise ça pour en faire un récit hyper haletant. Il n'y a pas d'innovation à ce niveau-là, quoi. On a repris à peu près la même recette, mais faut avouer que ça marche toujours hyper bien, quoi. Ça marche toujours hyper bien.
C'est écrit à la fin "to be concluded", donc je pense qu'il va y avoir quelque chose sur le retour du Jedi.
Ouais. Ah oui, j'imagine.
On va peut-être avoir enfin l'explication sur la présence des Ewoks.
Oui.
Parce que ça, c'est quand même.
Ouais. Ça, c'est bien parce que, dans cet épisode, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup, il y a un facteur prévu et puis hasard. Ouais. Parce qu'on a à un moment, on nous raconte quand même le premier jet, quoi. Et il y avait beaucoup plus de rebondissements, d'aliens, etc.
C'était imbitable, du coup.
Et c'était imbitable. Ouais. Et c'est vraiment passionnant. Tu le lâches pas, ce bouquin. Tu le lâches pas parce que t'es embarqué là-dedans, quoi. Après, faut avouer que ça parle au jeune garçon que j'étais, voilà. Donc, l'Empire contre-attaque, qui est en plus, je crois, quand même, dans la première trilogie, le plus percutant, ne serait-ce que je suis ton père.
Ouais,
Luc.
C'est le meilleur.
Rien que pour ça. D'abord, tu apprends toute l'histoire autour de cette phrase aussi, ouais. qui est très chouette. Vraiment, je vous conseille La Guerre de Lucas, épisode 2. Alors, si vous allez dans une certaine chaîne dont le nom est en 4 lettres, effectivement, vous avez une couverture alternative. Mais voilà.
Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une couverture en vilain papier, voilà.
Oui, nous, on a une couverture normale.
Avec un Ewok.
Mais un Ewok offert pour l'achat. Un Ewok vivant, évidemment.
Ah, bien.
Offert pour l'achat, mais pas pour vous.
C'est de la connerie. C'est de la connerie. C'est un hamster. Ils lui ont foutu une cagoule et c'est tout.
Il faut bien que le petit commerce se défende. Moi, je dis que c'est une bonne idée, le hamster avec une cagoule.
Aucun animal n'a été maltraité durant la vente.
René Roche, Laurent Hopman, Demon Édition, La Guerre de Lucas, épisode 2. On a le temps pour un dernier morceau de musique à Monsieur Fifrelin. Les Strokes.
Ah oui.
Eh ben, c'est quasiment ce qui va conclure cette émission, 515e émission de Plume et Pinceau.
Tout à fait.
Merci messieurs d'avoir apporté toutes ces connaissances.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Et vous avez donc découvert le fameux pouvoir secret, le pouvoir de super-héros de Roger. Tu lui files un bouquin, il trouve la page.
À quand le slip.
40 ans de métier, monsieur.
À la semaine prochaine, bonne lecture. Tant qu'on a le droit, et puis tant que la radio existe, hein, n'oublions pas.